Vous allez suivre une conférence de l'Agora des Savoirs, une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création d'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Du 3 novembre au 8 juin, les mercredis à 20h30, salle Rabelais, la ville de Montpellier propose une trentaine de conférences destinées au grand public.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Avec quoi est-ce que nous pouvons nous connaître, sinon avec notre propre connaissance?
Ce mercredi 23 mars à 20h30, la vérité est-elle une valeur comme les autres? De tout temps, le philosophe en quête de sagesse a trouvé sur sa route un obstacle de taille, le relativisme. S'il n'est de vérité que construite dans tel contexte par tel individu ou tel groupe, toute vérité semble condamnée à n'être que relative, précaire, provisoire. Peut-on résister au relativisme? Et si oui, comment? Olivier Tinlande, maître de conférences en philosophie contemporaine à l'Université Montpellier III, posera ces questions et bien d'autres.
Alors, comment commencer? Je me trouve face à vous, face à tout ce public, à cette salle intimidante, cette grande salle de cinéma, sur cette estrade, et subitement, je ne peux pas m'empêcher d'éprouver le sentiment étrange de l'inévidence de ce que je m'apprête à faire. Qu'attend-on de moi au juste? Que dois-je faire sur cette scène durant l'heure qui vient? Ce que je m'apprête à faire devant vous est-il une conférence en bonne et due forme? Et d'abord, qu'est-ce que c'est une vraie conférence? Qu'est-ce que c'est qu'être un vrai conférencier en train de faire une vraie conférence ici même? À bien y réfléchir, ai-je jamais appris exactement ce que c'était une vraie conférence? Existe-t-il quelque part une définition universellement établie de ce qu'est une vraie conférence? Comment savoir quelles en sont les règles, les objectifs, les attentes spécifiques? Comment savoir où s'arrête le genre conférence et où commence autre chose? Un one-man show ou une prestation un peu délirante, si je me mettais à chanter ou à parler avec une voix de stentor, que sais-je? C'est pas facile de savoir exactement à quoi tient justement l'usage qui fait que ce que je fais devant vous est une conférence ou pas. Les objectifs, les règles, les attentes que l'on est en droit d'attendre face à une conférence sont-ils les mêmes partout, en tout lieu, en toutes circonstances, en tout temps? Et vous qui m'écoutez ce soir, d'ailleurs, disposez-vous de votre côté d'une idée claire et distincte de l'exercice auquel je viens de commencer à me prêter et d'une quelconque norme pour l'apprécier indépendamment du plaisir immédiat que vous pourrez en tirer ou pas? Et si tel est le cas, d'où vous vient un tel savoir? Vous a-t-on jamais indiqué à vous clairement et exhaustivement les règles de cet exercice, les normes qui président à son appréciation, les valeurs qui sont censées sous-tendre votre réception de mon discours? À partir de quel moment déciderez-vous que mon propos est dans le vrai, est approprié aux circonstances, ou au contraire qu'il sort des rails invisibles qui encadrent comme par avance mon discours et sont censés lui conférer la conformité au modèle véritable, authentique de la conférence? Alors tel est le genre de vertige passager susceptible de saisir le conférencier quand il se retrouve face à son public, a fortiori devant un public si nombreux. Dans les faits, un tel vertige initial se résorbe de lui-même, comme une brève parenthèse de la vie psychique, dans la mise en œuvre de la conférence elle-même, et on appellera cela le trac. L'essentiel étant de parvenir, comme vous le savez, à s'en défaire par le recours à des expédients plus ou moins efficaces. À moins qu'un philosophe n'y fourre son nez et décide de faire une sorte d'arrêt sur image, décide de suspendre le caractère éphémère et apparemment anodin de cet instant de doute, l'instant où on a l'impression, et l'expression est intéressante, de perdre ses moyens. Ses moyens de quoi? Le philosophe donc peut être tenté de dilater les perspectives, d'amplifier les harmoniques ténues de cet événement infime, d'accentuer les contrastes de ce doute léger qui envahit le conférencier au moment de se lancer. Bref, le philosophe peut être tenté de dramatiser la portée de ce doute afin d'en faire un authentique moment de scepticisme philosophique. Ce genre de moment où affleure abruptement une forme de sentiment de vide face à notre besoin insatiable de trouver une assise ferme et assurée à nos représentations, à nos usages, à nos croyances les plus ordinaires. Besoin que nous pouvons appeler un besoin de vérité. Alors ce qui va m'intéresser ce soir, c'est précisément ce genre d'exagération typiquement philosophique, le genre d'exagération susceptible de créer un abîme là où au départ nous n'apercevions qu'une légère fissure, qu'une infime fêlure dans l'enchaînement réglé de nos pratiques ordinaires. C'est peut-être là que se jouerait la question de la vérité, plutôt que dans les combats de géants que se livrent les philosophes, ou dans les lieux où la vérité est thématisée méthodiquement, encadrée dans des procédures formalisées. Alors c'est bien connu, les philosophes sont réputés pour être exaspérants. Et c'est sans doute vrai si l'on se réfère à l'étymologie d'exasperare, qui signifie rendre rugueux, rendre âpre. Les philosophes ont une tendance fâcheuse à exagérer ce qui pour eux fait question, ce pourquoi, pour reprendre le mot d'André Gide, quand un philosophe vous répond, comprend même plus ce qu'on lui avait demandé. Le philosophe est toujours dans l'exagération, il est toujours dans l'hyperbole. C'est agaçant, toujours, de voir les philosophes en faire trop, en faire des tonnes pour s'emparer d'un sujet. Le meilleur exemple, ça n'est rien d'autre que le doute justement hyperbolique de Descartes, celui par lequel on en vient à douter de tout, y compris de ce dont on ne doute pas normalement. À douter non seulement de ce qui est dubitable, incertain, mais aussi de ce qui nous paraît le plus certain, au point de ne plus arriver à croire en rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle est l'histoire que nous raconte Descartes dans les méditations métaphysiques? Pourquoi exagérer à ce point la portée de nos incertitudes? Le philosophe est donc accoutumé à l'outrance, à une certaine forme d'outrance, dans une forme apparemment délibérée d'excès théorique, qui nous semble nous éloigner fatalement de la juste mesure de la réalité à laquelle nous sommes habitués. Il y a donc toujours, dans cette toute bonne démarche philosophique, comme un effet de grossissement, permettant d'appréhender quoi ? Ben précisément les problèmes qu'ordinairement nous n'arrivons pas à voir. Non pas parce que de tels problèmes seraient trop éloignés de nous, non pas parce que ces problèmes seraient dans l'au-delà, seraient transcendants, seraient cachés, mais au contraire parce que ces problèmes sont trop proches de nous, trop collés à nous. Ils nous collent à la peau, ce pourquoi nous ne les voyons pas. Ils nous collent trop à notre vie ordinaire, à nos habitudes de pensée, à la routine de nos croyances. Tous les grands arguments des philosophes sont affaires d'exagérations savamment orchestrées à des fins de détection de problèmes qui autrement demeureraient insoupçonnés. De ce point de vue-là, c'est une des choses que j'aimerais évoquer ce soir, la philosophie peut être entendue en usant du mot célèbre que Platon proférait dans le Phèdre. La philosophie, c'est une sorte de pharmacone. Le pharmacone, en grec, ça veut dire à la fois remède et poison. Et la philosophie, sans doute les deux. C'est pourquoi on lui adresse tant de louanges et tant de reproches. La philosophie serait à la fois le remède et le poison à nos inquiétudes intellectuelles et à nos angoisses existentielles. D'un côté, elle est remède, elle crée des dramaturgies intellectuelles, des fictions spéculatives. Borges disait dans ses fictions que la métaphysique est une branche de la littérature fantastique. C'est sans doute pas faux. Ces dramaturgies intellectuelles, ces fictions, le philosophe les met en œuvre afin de mettre au jour des problèmes inaperçus, afin de grossir certaines angoisses microscopiques ou de dilater notre perception confuse de certains embarras, de certaines hésitations, afin d'en dégager la signification et la portée spéculative. Mais la philosophie peut être aussi poison. Elle peut s'empoisonner elle-même et empoisonner le reste du monde par la même occasion. La philosophie peut oublier parfois le statut simplement instrumental, provisoire, méthodique de ces petites dramaturgies de l'esprit qu'elle concocte dans son coin. Dramaturgies de l'esprit qui sont avant tout des fictions méthodologiques, des expériences de pensée qui ont pour but de nous procurer une forme de clarification de nos pensées. Ce faisant, en oubliant le statut simplement provisoire de ces dramaturgies, la philosophie est toujours susceptible de se laisser prendre elle-même au drame qu'elle a elle-même créé. La philosophie, alors, de dramaturgique, devient proprement dramatique. Elle subit son propre effet de dramatisation. Elle succombe à ses propres mises en scène, à ses propres exagérations. Et elle crée ainsi de nouvelles angoisses, des angoisses proprement philosophiques qui contaminent peu à peu ses lecteurs, peu avertis des statuts méthodiques, des exagérations qui ont produit ces drames de l'esprit. Mon ambition ce soir est sans doute excessive et elle ne sera sans doute pas totalement tenue, en tout cas j'essaierai d'aller sur ce chemin, c'est justement de mettre en scène certaines dramaturgies philosophiques, montrer ce qu'elles nous permettent d'apercevoir, ce dont elles nous permettent de prendre conscience, mais aussi d'exhiber les crispations intellectuelles et les angoisses existentielles qu'elles sont susceptibles de créer pour peu que l'on oublie les conditions très spécifiques qui ont présidé à leur élaboration. Dans un deuxième temps, mon idée, c'est d'envisager justement la manière dont la philosophie peut remédier à ses propres poisons et se défaire de ce que Wittgenstein appelait les crampes de pensée qui viennent ankyloser l'esprit, afin de retrouver un rapport à la fois lucide et dédramatisé au réel, du moins de se libérer des drames de l'esprit afin d'être mieux en mesure d'affronter les drames réels, les drames de la vie ordinaire. Alors le sujet de ce soir, qui sera le thème de cette variation sur la double nature de la philosophie, c'est le thème de la vérité, le plus vieux sujet du monde et sans doute le plus éculé. La vérité est un thème extrêmement difficile à saisir, c'est une véritable anguille conceptuelle, puisque c'est à la fois le concept le plus abstrait qui soit et le plus concret. Il est à la fois le concept le plus insaisissable et en même temps un concept omniprésent dans nos existences. Si l'on s'en réfère à Bernard Williams, dans l'ouvrage que Vincent a cité, « Vérité et véracité », on se rend compte en effet que nous avons un rapport paradoxal, contradictoire, quasi schizophrénique à la notion de vérité. D'un côté, nous sommes tiraillés par une exigence de véracité. Nous voulons que les gens nous disent la vérité et en même temps, nous sommes animés d'une profonde défiance à l'encontre de la vérité. Le problème, c'est que ces deux attitudes ont du mal à marcher ensemble. En effet, la défiance envers la vérité, qui est, comme Vincent le rappelait, très largement partagée, se fait au nom même de l'exigence de véracité. C'est parce que l'on veut le vrai que l'on se défie du vrai. Et par là même, cette défiance menace de saper les bases de l'exigence de véracité en jetant un soupçon généralisé sur tout ce qui se présente comme une vérité. Qu'il s'agisse du discours de ce qu'on appelle les experts, de manière méprisante, et ce mépris est révélateur, qu'il s'agisse des hommes politiques, des économistes, des médecins, des policiers, de l'appareil judiciaire, des journalistes, toute vérité est soupçonnée de relever, en fait, de l'idéologie, du mensonge intéressé, d'une simple perspective biaisée sur le réel, relevant d'une volonté de puissance ou d'un dispositif insidieux de savoir-pouvoir, pour reprendre le concept de Michel Foucault. À partir de là, on est en droit de se demander sur quoi il est possible de fonder l'exigence de véracité alors même que l'on se défie de la vérité. Comment peut-on exiger qu'on nous dise la vérité si l'on ne croit plus à la vérité? La philosophie peut-elle nous aider à sortir de ce rapport schizophrénique à la vérité, mixte de défiance et de confiance, d'adhésion et de distance, de désir et de rejet? Comment la philosophie peut-elle nous aider à démêler ces ambiguïtés? Mon hypothèse, c'est que précisément, la philosophie peut nous aider à voir plus clair sur certaines crispations, certaines angoisses liées à la vérité, par la mise en scène de dramaturgie intellectuelle appropriée. Il s'agira alors d'essayer de mieux discerner ce qui pose problème dans notre rapport à la vérité, ce qui est en jeu quand nous faisons de la vérité un enjeu majeur de nos existences. Alors cette vérité, et ce sera le premier temps de mon exposé, elle est très difficile à cerner, très difficile à définir. On pourrait dire finalement que notre rapport à la vérité est semblable au rapport au temps tel que saint Augustin le présente au livre 11 de ses Confessions. On connaît la célèbre phrase de saint Augustin, « Qu'est-ce que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais, mais que je veuille l'expliquer à la demande, là, je ne sais pas. » De même, nous avons une sorte de perception ordinaire, évidente, de ce que c'est que la vérité. Tout le monde sait ce que c'est que dire la vérité, que de mentir, de dire la vérité ou d'être dans l'erreur, de percevoir la vérité ou d'être dans l'illusion. Et pourtant, dès lors que l'on essaye d'analyser ou d'expliquer cette notion de vérité, cette impression d'évidence se dissout aussitôt. Pour quelle raison est-ce qu'il est si difficile de définir ce dont pourtant nous avons un usage si courant, si fréquent, si apparemment assuré? Précisément, la réflexion philosophique sur la vérité, elle se distingue de toute autre réflexion sur quelque objet que ce soit. On ne réfléchit pas sur la vérité comme on réfléchit sur le mal, la justice, le politique, et tout ce que vous voulez. En effet, toute réflexion philosophique sur la vérité se trouve d'emblée prise dans une situation un peu étrange, un peu inconfortable, puisqu'elle se trouve obligée de présupposer constamment ce qu'elle est en train d'examiner, à savoir l'acquisition du concept de vérité. Afin de mieux comprendre cette idée-là, je vous renvoie à une célèbre lettre de Descartes, une lettre au père Mersenne de 1639, où Descartes nous dit la chose suivante. « On a bien des moyens pour examiner une balance avant que de s'en servir, mais on n'en aurait point pour apprendre ce que c'est que la vérité si on ne la connaissait de nature. Car quelle raison aurions-nous de consentir à ce qui nous l'apprendrait si nous ne savions pas qu'il fût vrai, c'est-à-dire si nous ne connaissions la vérité ?» Il serait dérisoire, voire impossible, de prétendre définir par avance la vérité, puisqu'une telle définition, pour être acceptée, devrait elle-même être considérée comme vraie, sinon ce ne serait pas une bonne définition. Donc cette définition devrait déjà anticiper sur ce qui est à définir. Je devrais déjà savoir ce qu'est la vérité pour être en mesure de donner une définition vraie de la vérité. Et oui, c'est agaçant les philosophes, ça cherche toujours des problèmes, là on n'en voit pas. On est donc dans un cercle vicieux d'emblée. Vouloir définir la vérité, c'est forcément soumettre la vérité à une conception de la vérité préalable que l'on doit présupposer pour obtenir une telle définition de la vérité qui soit une vraie définition. Il faut donc procéder autrement. Définir la vérité est une quête sans doute oiseuse, problématique, et on le voit, de toute façon, cette quête est constamment en train de se précéder elle-même, de présupposer qu'elle a déjà touché à son but. Vouloir définir la vérité, c'est forcément connaître la vérité. La vérité, donc, ne doit pas être définie. Elle doit par contre pouvoir se reconnaître à certains signes, à certains critères, à certains usages, grâce auxquels nous savons que nous sommes en sa présence ou pas. Il faut substituer le travail de reconnaissance au travail de définition. Alors essayons de dégager rapidement quelques critères de reconnaissance de la vérité. Je n'aurai pas le temps, naturellement, de les envisager tous, et vous m'en excuserez. On pourra peut-être compléter ça lors de la discussion. Mais on va déjà essayer de voir si les critères que j'ai retenus, qui sont les critères les plus classiques, offrent une prise à quelques problèmes philosophiques remarquables. Alors il semblerait, pour remonter un petit peu dans l'histoire, il semblerait que, au départ, la vérité était conçue non pas comme une propriété relative à la réalité, à ce qui est, mais comme la propriété d'un certain type d'homme capable d'être véridique. La vérité serait ce qui est prononcé par les hommes véridiques, les hommes qui sont capables de proférer des discours vrais. C'est ce que l'historien de la Grèce antique Marcel d'Étienne, dans son fameux ouvrage sur les maîtres de vérité, présente. Et c'est ce qu'il appelle justement des maîtres de vérité. Dans la Grèce archaïque, avant Platon, avant Aristote, avant la philosophie, le poète, le devin, le roi de justice détiennent le pouvoir de dire vrai. Non pas parce que leurs énoncés pourraient être vérifiés, être confrontés à tel ou tel critère, mais tout simplement parce que la vérité qu'ils énoncent, l'aletheia, est le contraire de l'été en grec, de l'oubli. L'identification de la vérité à la stature symbolique d'un homme, à l'inspiration qu'il tire de son statut social privilégié, à son prestige, fait que la vérité, c'est ce qui vise à proférer des paroles inoubliables, des paroles qui resteront dans la mémoire d'un peuple. La vérité est donc une propriété à cette époque qui se joue entre un homme, son statut et son discours. C'est parce qu'on est véridique que l'on dit vrai, et non pas parce que l'on dit vrai que l'on est véridique. Le dire vrai est donc une attribution sociale, une attribution symbolique quasiment sacrée. Alors il faudra attendre quelque temps, et notamment l'arrivée de Platon et d'Aristote, pour que l'on définisse la vérité autrement, pour que l'on se rapproche de ce qui pour nous peut être considéré comme une définition reconnaissable de la vérité. Platon et Aristote redéfinissent la vérité, non plus en rapport avec un type d'homme privilégié simplement, mais dans le double rapport d'un discours d'une part à une intersubjectivité, à une pluralité d'hommes, d'autre part à une objectivité, à une réalité qui lui fait face. Il s'agit dès lors d'établir un rapport entre un discours, entre un homme qui dialogue avec d'autres hommes, et ces hommes doivent se mettre d'accord, s'entendre sur ce qui est vraiment vrai, et pas seulement sur un simple effet de persuasion momentanée, pour toucher la vérité, c'est le sens des dialogues platoniciens. Il s'agit également de rapporter ces discours à une réalité à laquelle ces discours doivent se conformer pour pouvoir s'accorder entre eux. La conformité au réel devient donc la mesure du vrai, et l'accord entre les hommes, entre les individus, devient le signe du vrai. On retrouve précisément ces deux paramètres dans l'usage courant du terme de vérité. En quoi consiste cet usage courant du terme de vérité ? Alors, pour nous servir de guide, ici, j'ai choisi de démarrer avec quelques réflexions du philosophe Heidegger dans sa célèbre conférence sur l'essence de la vérité. Heidegger commence par sa conférence justement en essayant de voir qu'est-ce que nous voulons dire quand nous disons de quelque chose que c'est vrai. Et il note immédiatement que dans l'usage le plus courant, ce qui est vrai, c'est ce qui est réel, c'est ce qui est effectivement. Comme quand on parle d'un métal qui est du vrai or, et non pas du faux or, par exemple du cuivre doré, qui n'est qu'une apparence d'or, une irréalité, une réalité secondaire par rapport au vrai or qui est vraiment de l'or. Simplement, présenter le vrai comme ça, et souvent on a tendance à penser le vrai comme ça, comme ce qui caractérise ce qui est vraiment, d'accord ? Ah, ça c'est une vraie statue de bronze, c'est pas du toc, etc. Quand on fait cela, on se retrouve dans un rapport un peu ambigu à la notion de vérité. Heidegger note immédiatement, je cite, que le cuivre doré est tout de même quelque chose de réel. L'or authentique n'est ni plus ni moins réel que le cuivre doré. Donc, il ne s'agit pas de dire que quelque chose est réel pour dire qu'il est vrai. La vérité ne s'identifie pas au réel, elle porte sur lui. Ce qui est vrai, ce n'est pas le réel, mais c'est ce qui est authentique. Comme quand un historien de l'art, par exemple, dit d'un tableau de maître, c'est un vrai Rembrandt. Ou comme quand un douanier voit passer un bagage et dit, c'est un faux Louis Vuitton. Au contraire, un faux, justement, un faux tableau sera fabriqué par un faussaire, donc quelqu'un qui est un producteur d'inauthenticité. Le faux Rembrandt est bien un tableau réel, il existe, mais c'est une réalité indigne de son apparence, inadéquate à ce qu'il prétend être, et à ce titre qui ne vaut pas autant que le vrai Rembrandt. Le vrai est alors ce qui seul a une valeur, tandis que le faux est sans valeur. Toutefois, cette valeur, on s'en rend bien compte, ne dépend pas uniquement de la réalité de la chose décrétée vraie ou fausse. Puisque le cuir doré est tout aussi réel que l'or, et le faux Rembrandt ou le faux bagage Louis Vuitton est tout aussi réel que ce qui est qualifié de vrai Rembrandt ou de vrai bagage Louis Vuitton. Ce qui compte alors, ce n'est pas la réalité, mais la conformité de la chose à ce qu'elle est estimée être. Ce n'est plus la chose elle-même qui est vraie ou fausse. La chose, elle est tout simplement réelle, elle n'est ni vraie ni fausse. C'est ce que l'on pense d'elle ou ce que l'on énonce à son sujet qui est vrai ou faux. La vérité se déporte immédiatement de la réalité à la parole. Un énoncé, nous dit Heidegger, est vrai lorsque ce qu'il signifie et exprime se trouve en accord avec la chose dont il juge. Ici, nous disons « ça colle »,« es stimmt » en allemand. Ainsi apparaît le premier signe auquel on peut, du moins on peut espérer, reconnaître la vérité. C'est quand notre pensée colle avec la chose que nous pensons. Il y a une forme de conformité, de correspondance, d'adéquation à une réalité, ou encore, comme disaient les scolastiques médiévaux, « veritas est adequatio rei et intellectus », la vérité, c'est l'adéquation de la chose et de l'intellect. Autrement dit, je suis dans le vrai, quand ce que je dis du monde colle avec le monde, lui correspond d'une façon appropriée. Le tout étant de savoir, évidemment, ce que signifie « correspondre » à quelque chose de façon appropriée. Qu'est-ce que ça signifie, cette idée de correspondance ? Ça paraît très simple comme ça, et en même temps, c'est très compliqué, c'est très mystérieux, cette idée-là. C'est ici, justement, qu'intervient une première fissure dans l'édifice de la vérité, dans notre rapport ordinaire à la vérité. Fissure dans laquelle, évidemment, vous en doutez, le philosophe va s'empresser de se glisser. Cette idée banale, selon laquelle la vérité consiste dans la correspondance de notre pensée ou de notre discours avec ce qui est, idée inséparable de la notion de vérité, cette idée dissimule une difficulté de taille dans laquelle va s'engouffrer la réflexion philosophique pour transformer cette infime fissure en un véritable abîme. Reprenons le texte de Heidegger, nous l'avons laissé, et il s'agit, nous dit Heidegger, Heidegger donne un exemple, il parle d'une pièce de monnaie. Quand nous disons d'une pièce de monnaie qu'elle est ronde, ce que nous disons est vrai quand il y a bien face à nous une pièce de monnaie qui est ronde. Pas de problème. Ça se complique, malgré tout, assez vite. Je cite Heidegger. « En quoi, cependant, la chose et l'énoncé peuvent-ils se convenir, là où manifestement les termes de la relation diffèrent par leur aspect ? La pièce de Monet est faite de métal. L'énoncé n'est aucunement matériel. La pièce est ronde. L'énoncé n'a aucun caractère spatial. La pièce permet d'acheter un objet. L'énoncé n'est jamais un moyen de paiement. Comment ce qui est complètement différent peut-il se faire adéquat à la pièce de Monet ? Voilà la question. Autrement dit, l'adéquation de nos énoncés à la réalité matérielle, qui ne semblait ne pas faire problème, et quand on dit de quelque chose qu'il est vrai, en effet, on pense à ça. Si je dis cette salle est bien remplie ce soir, d'accord, le référent réel, la salle bien remplie, vient vérifier mon énoncé. Ça semble l'évidence. Pour autant, on va voir que le regard philosophique change la donne et suscite une sorte de malaise qui ne va faire que croître au fur et à mesure de nos réflexions. La vérité donc serait cette adéquation, cette correspondance entre une pensée et la réalité qu'elle vise, donc entre deux ordres de réalité qui sont foncièrement hétérogènes, entre une pensée immatérielle et une réalité matérielle. Comment penser cette relation de correspondance entre deux choses qui a priori n'ont rien à voir ? Quand je dis que cette pièce de Monet est ronde, comment le mot rond, qui n'est lui-même pas rond, peut-il correspondre à la rotondité de la pièce réelle ? Voilà un premier problème, apparemment étrange, mais redoutable quand on y réfléchit bien. Premier problème qui est celui de la possibilité pour quelque chose d'immatériel, comme la pensée, de correspondre à quelque chose de matériel, autrement que sur un mode symbolique, conventionnel, métaphorique. Comment est-il possible de penser cette relation mystérieuse de conformité entre la pensée et le réel ? À ce problème s'ajoute un deuxième problème concernant cette conception classique de la vérité comme correspondance, comme adéquation de la pensée à la réalité. Avant même qu'elle puisse être déterminée en un sens ou un autre, l'idée de correspondance entre pensée et réalité suppose quelque chose qui est extrêmement problématique. En effet, se dire que ma pensée correspond à la réalité suppose que je puisse en quelque façon comparer cette pensée à la réalité. Sinon, comment être sûr qu'il y a bien conformité, adéquation ? Je dois bien pouvoir aller de l'un à l'autre et vérifier que les choses se passent bien. Même en faisant abstraction du problème que je viens d'évoquer, à savoir qu'on a d'un côté une entité immatérielle, et de l'autre côté une entité matérielle. Le problème, c'est de savoir comment est-ce que je peux comparer la pensée au réel. Un vieux problème qui a donné naissance à ce qu'on appelle en philosophie la tradition idéaliste. En effet, comment est-ce que j'ai accès à ce réel ? Comment est-ce que je peux comparer le réel à mes représentations ? Il faut que j'ai un accès direct au réel, que je puisse dire, tiens, là, il y a la réalité en soi, indépendamment de mes représentations, et je peux comparer ce réel à la façon dont je me le représente. Problème, nous n'avons accès au réel que par nos représentations. Nous ne pouvons jamais sauter par-dessus nos propres représentations pour aller voir à quoi ressemblerait cette fameuse réalité telle qu'elle est en soi et non pas pour nous. Ce que l'on connaît du monde, on le connaît par l'entremise de nos sens, par l'entremise de notre imagination, de notre mémoire, de notre entendement, bref, par ce que l'on en perçoit. Mais par définition, comme le philosophe Berkeley l'avait bien vu, on ne perçoit que du perçu. On ne perçoit pas des choses. D'accord ? Je touche cette table. Ce que j'en perçois, c'est ma perception, le contact de ma main sur cette table, la façon dont j'appréhende cette table. Je ne touche pas la table en soi, indépendamment de la température, de la rugosité, du système nerveux de ma main et de la façon dont tout ça se combine dans mon cerveau. Bref, on ne peut pas comparer la pensée à quelque chose qui serait transcendant à elle, qui serait extérieur à elle. On ne peut comparer nos pensées qu'à d'autres pensées. On ne peut comparer nos représentations qu'à d'autres représentations sans jamais sortir de nos propres représentations. Nous sommes en quelque façon à la fois collés au réel, en même temps enfermés dans nos représentations. Comme l'a bien vu Kant, je vous cite un texte fameux dans lequel il présente la chose de façon très simple, pour une fois. Le seul moyen que j'ai de comparer l'objet avec ma connaissance, c'est que je le connaisse. Ainsi, ma connaissance doit se confirmer elle-même. Mais c'est bien loin de suffire à la vérité. Car puisque l'objet est hors de moi et que la connaissance est en moi, tout ce que je puis apprécier, c'est si ma connaissance de l'objet s'accorde avec ma connaissance de l'objet. Je n'arrive pas à sortir de ma connaissance. Je n'arrive donc pas à savoir ce qui pourrait constituer le juge de paix de mes interrogations sur mes énoncés. La conclusion apportée à cette petite investigation préliminaire, c'est que non seulement on ne parvient pas à donner un sens clair à l'idée d'une correspondance entre deux choses aussi différentes qu'une pensée et une réalité matérielle, mais d'autre part, nos représentations ne se confondent pas au monde, à un monde qui serait là, transparent, d'accord, indépendant de notre prise sur lui. Elles se confrontent à d'autres représentations du monde. Ainsi, la vérité semblait prendre corps dans un lien robuste entre notre pensée et le réel. Et nous voici soudainement enfermés dans nos pensées, sans espoir de rejoindre une réalité pure de toute pensée, une réalité virginale à l'état brut qui pourrait enfin constituer la pierre de touche d'une première vérité. Autrement dit, l'idée de correspondance ou d'adéquation de la pensée à la réalité semble aussi indispensable, nécessaire pour donner un sens à la vérité, que serait une vérité qui ne porterait pas sur le réel. Et en même temps, cette idée de correspondance, elle est finalement incompréhensible. Nous n'arrivons pas à comprendre ce qu'elle veut dire. D'où la tentation de se mettre en quête de d'autres signes de reconnaissance de la vérité qui, on l'espère, nous permettront de nous rapprocher, de stabiliser cette notion, encore une fois, qui semble fuir dans nos mains quand nous essayons de la saisir. Deuxième tentative, deuxième critère de reconnaissance. Si nous sommes incapables de rapporter nos croyances sur le monde à autre chose qu'à d'autres croyances sur le monde, et là j'utilise le terme de croyance non pas en un sens religieux, mais en un sens banal, d'accord, je crois qu'il va pleuvoir demain, je crois reconnaître des gens dans la salle, etc. Si on ne peut comparer nos croyances qu'à d'autres croyances, sans jamais être en mesure de rejoindre le monde lui-même, la seule issue à ce qui pourrait bien être une forme de scepticisme, semble être de dégager une cohérence interne à ces croyances. La vérité ne serait pas à trouver dans une sortie de la pensée hors d'elle-même vers le réel, mais au contraire, dans l'organisation interne de nos pensées, qui pourrait justement compenser cette espèce d'autisme de nos pensées à l'égard du réel, en s'organisant de façon cohérente. La prise de conscience du fait que notre expérience des faits du réel est imprégnée de nos concepts et tributaire de notre équipement sensoriel, cette prise de conscience nous incite donc à envisager le lien de nos pensées, non pas au réel, puisque ce réel s'avère inaccessible comme tel, et pourtant c'est bien de lui que nous parlons, c'est tout le problème, mais il s'agit de rapporter nos pensées à d'autres pensées, conformément à un ordre interne de la pensée. Ce qui compte à présent, c'est le lien de mes croyances entre elles, c'est leur cohérence, leur articulation rigoureuse, conformément au célèbre précepte hegélien, le vrai est le tout. La vérité, ça n'est jamais que l'articulation systématique de croyances. Un tel modèle tend à concevoir la vérité comme une totalité systématique de croyances, puisque nos croyances doivent se conforter les unes les autres dans un réseau complexe de justifications mutuelles, en respectant la règle de non-contradiction, qui est la règle élémentaire de cohérence interne. Une croyance sera vraie si elle n'est pas contredite par l'ensemble de mon système de croyances, si elle s'intègre harmonieusement dans ce système de croyances. Alors une telle conception de la vérité insiste de manière légitime sur l'une des caractéristiques saillantes de la notion de vérité. Une vérité n'est une vérité vraie, si on peut dire, réelle, que si elle a des relations harmonieuses et cohérentes avec d'autres vérités. Une vérité isolée serait encore trop fragile, trop précaire pour valoir comme une vérité durable. Elle a besoin d'être raccordée au réseau entier de nos autres croyances présumées vraies pour tenir debout. On retrouve cette tendance, d'ailleurs, je le note en passant, cette tendance à la cohérence interne, notamment dans la démarche scientifique. Une découverte scientifique n'aura de valeur théorique que si elle est capable de s'intégrer harmonieusement à l'ensemble de la théorie globale en vigueur. Une découverte scientifique n'est jamais valable par elle-même. Elle doit d'abord faire l'épreuve de l'ensemble des croyances scientifiques qui sont déjà acceptées par la communauté des savants. C'est pourquoi il est toujours difficile d'opérer ce que Thomas Kuhn appelait une révolution scientifique, de changer de paradigme scientifique. Le problème, parce qu'il y a évidemment un problème, vous en doutez, c'est que la cohérence s'avère être un critère, là aussi, nécessaire mais insuffisant de la vérité. En effet, il y a plein de choses cohérentes qui ne sont pas vraies. Pensez à un délire schizophrénique, par exemple, un mensonge caractérisé, une construction idéologique bien fichue, ou une fiction romanesque particulièrement sophistiquée. Tout cela, ça peut former des choses très cohérentes sans être forcément vraies. On peut penser par exemple à la puissance de persuasion des groupes sectaires qui construisent des récits à la cohérence redoutable, bien qu'ils soient évidemment loin d'être vrais, en tout cas que je sache. Plus généralement, il existe une infinité de croyances que nous pouvons rendre cohérentes entre elles, alors même qu'elles ne correspondent à rien. Admettons que je dispose d'un stock élémentaire de croyances vraies. Je crois, par exemple, je perçois que le soleil se lève et se couche tous les jours à intervalles à peu près réguliers, on reste dans l'approximation, produisant l'alternance du jour et de la nuit. Pas de problème, j'ai un tout petit stock de croyances qui, grosso modo, peuvent être considérées comme vraies. Je parle sous le contrôle de scientifiques émérites. C'est des croyances vraies, en tout cas au niveau de ma perception immédiate. Voilà. Le fait est que je peux raccrocher à ce stock initial de croyances vraies tout un tas de croyances fausses, voire franchement délirantes, qui seront parfaitement cohérentes avec ces premières croyances vraies. Je peux tout à fait penser, comme on l'a fait pendant longtemps, que le Soleil tourne autour de la Terre et non pas l'inverse. Je peux penser que la Terre est plate. Je peux penser que le Soleil ne fait que quelques centaines de mètres de diamètre. C'est bien l'impression qu'on a quand on le regarde dans le ciel. Je peux penser que la Lune est mise en mouvement par des vaisseaux extraterrestres très sophistiqués qui la font tourner dans le ciel pendant la nuit, etc., etc. C'est ainsi que l'ignorance, l'illusion, l'obscurantisme peuvent se raccorder à des croyances vraies. C'est tout le problème. Elles peuvent se greffer fort aisément sur des croyances vraies et former un système cohérent de croyances qui sont malgré tout fausses, puisque consistant en un ensemble indissociable de croyances vraies et de croyances fausses. Et si on ajoute un stock de croyances vraies à un stock de croyances fausses, ça donne quelque chose de fou, même s'il y a un peu de vrai dedans. Alors on peut bien sûr essayer de conjurer ce risque, cette pente inquiétante qu'a la fausseté à se greffer sur la vérité, par différents stratagèmes. On peut instaurer une interdépendance de plus en plus vaste, de plus en plus resserrée entre nos croyances pour limiter la part de délire, d'illusion ou d'erreur. Mais une telle quête, on s'en doute, est menée forcément à confronter à une régression à l'infini. On n'en aura jamais fini d'atteindre la totalité des croyances et de remonter dans la série infinie des principes explicatifs et des causes. Et en attendant, il faut bien se débrouiller. Il faut bien faire avec des blocs de croyances impures, limitées, partielles, donc dépourvues de cette cohérence parfaite et totale qui seule pourrait être vraie. Tant que nous n'aurions pas atteint la totalité des croyances possibles, nous ne serions pas sûrs d'être dans le vrai. Il y aura toujours la possibilité qu'une autre croyance inaperçue remette en cause toutes les croyances que nous avions jusque-là tenues pour vraies. Or, évidemment, cet idéal est inaccessible. Autrement dit, nos croyances ne sont cohérentes que jusqu'à un certain point, au-delà duquel elles se heurtent soit à de l'ignorance, soit à d'autres systèmes de croyances cohérentes entre elles, mais incompatibles avec mes croyances à moi. Alors, afin d'échapper à la menace de l'illusion personnelle ou du délire privé, on peut aussi faire se recouper nos croyances avec celles d'autrui. C'est pas idiot. On peut, de loin en loin, faire se rejoindre nos croyances et celles de la communauté tout entière à laquelle nous appartenons. La communauté serait le gage de la vérité. D'accord ? Je suis peut-être fou, mais si tout le monde pense la même chose que moi, il y a une probabilité relativement plus faible que tout le monde soit fou. Ce qui est vrai, c'est alors ce qui vaudra pour tous les membres de ma communauté. Mais là encore, évidemment, on ne peut pas exclure le fait qu'une communauté tout entière soit dans l'erreur. Par exemple, en croyant collectivement à la platitude de la Terre, ça s'est déjà trouvé, en croyant collectivement à l'astronomie ptoléméenne, en croyant collectivement à la supériorité biologique d'une race sur toutes les autres, en croyant collectivement au fait que le monde a été créé en 6 jours. L'extension de l'exigence de cohérence de nos croyances à la communauté ne résout pas le problème, mais ne fait que le reporter à une autre échelle. Une communauté peut être intégralement dans l'erreur. Sa conception de la réalité peut reposer sur tout un tas de préjugés, de valeurs ou de symboles qui viennent biaiser sa perspective sur le réel. C'est pourquoi elle ne saurait être une garantie ultime de la vérité de nos croyances. Autrement dit, la contrainte communautaire est encore trop ténue pour rendre compte de la double direction de la vérité déjà aperçue par Platon et Aristote. Pour être dans le vrai, il ne suffit pas de s'entendre avec autrui. Il y a bien des moments où on s'entend avec autrui tout en étant totalement dans l'erreur, évidemment. Encore faut-il qu'une telle entente avec autrui puisse être justifiée par d'autres critères de vérité, lui conférant non pas une simple valeur intersubjective, mais une valeur proprement objective, lestée de tout le poids du réel. Être vrai, c'est toujours être vrai à propos de quelque chose, à propos d'une réalité dont la présence insistante transcende les accords entre les membres d'une communauté. Autrement dit, ce qu'on peut appeler la conception cohérentiste de la vérité comme croyance, articulation cohérente de nos croyances entre elles, cette conception ne constitue au final pas une solution, puisqu'elle renvoie, comme à sa condition première, à l'autre conception de la vérité par laquelle nous avons commencé. Une simple cohérence interne de nos croyances ne suffit pas, il faut mettre ces croyances à l'épreuve de quoi ? À l'épreuve de leur adéquation, de leur conformité au réel. Nous y revoilà. Autrement dit, nous sommes constamment ballottés entre une conception et l'autre. La première conception renvoie à la deuxième par ses problèmes propres. La deuxième conception, comme cohérence, renvoie à la première, puisqu'encore une fois, une cohérence suspendue dans le vide n'est pas une vérité, et vice-versa. On est donc ballotté d'un côté à l'autre, de la correspondance à la cohérence et vice-versa, sans parvenir à ancrer notre notion de vérité dans un fondement suffisant. C'est alors que peut pointer, face à cette absence de prise stable sur la notion de vérité, c'est alors que peut pointer le spectre de ce que l'on appelle communément le relativisme, et dont Protagoras a donné la formule typique « l'homme est la mesure de toute chose ». On le voit, ni le réel, ni l'ordre interne de nos pensées ne semblent pouvoir servir de point d'appui suffisant à une définition satisfaisante de la vérité, en tout cas à une reconnaissance satisfaisante de la vérité. D'où le soupçon que la vérité ne serait que le fruit d'une évaluation singulière, une perspective individuelle, instable, une simple métaphore, pour parler comme Nietzsche, une métaphore par laquelle nous configurons le réel, comme des artistes finalement, en fonction de nos intérêts vitaux, de nos intérêts psychologiques, de nos intérêts sociaux, de nos intérêts idéologiques, etc., etc. De ce point de vue-là, la vérité ne serait qu'une valorisation arbitraire de certaines de nos pensées. Pour reprendre la plaisante expression de Richard Rorty, philosophe contemporain, la vérité ne serait qu'un compliment ou qu'une tape dans le dos amicale que nous adresserions aux croyances que nous souhaitons défendre et valoriser. Ce que je dis est vrai, se disant « j'aime bien cette pensée, allez ». Lance-toi, je t'aime bien et je vais te valoriser. À la bourse des valeurs, la vérité ne vaudrait pas mieux que les autres et serait sujette aux mêmes fluctuations aléatoires en fonction des intérêts en présence. D'où la tentation d'adhérer à une forme de perspectivisme. Tout serait affaire de perspectives singulières, irréductibles les unes aux autres, arbitraires, qui ne se recouperaient pas autour d'une universalité réelle. Perspectivisme qui débouche fatalement sur une forme d'irrationalisme. La vérité ne serait pas affaire de rationalité, après tout, mais d'abord d'utilité, de désir, d'imaginaire, de fantasme, de satisfaction de ces fantasmes. La question, évidemment, qui se pose alors est de savoir si la vérité ne se vide pas de son sens même à rejoindre, justement, le rang ordinaire des autres valeurs. La vérité peut-elle être une valeur comme les autres ? On y vient, vous voyez, je ne vous avais pas menti. La vérité peut-elle être une valeur comme les autres sans cesser par la même d'être une vérité, c'est sans se voir dépouillé du sens que nous attachons à l'idée de vérité. C'est ce que j'aimerais envisager à présent. Alors nous voilà mal embarqués, donc après ce premier parcours qui nous a conduit à voir qu'il était bien difficile d'ancrer la notion de vérité dans quelque chose de consistant. La tentation, évidemment, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain, de jeter la vérité avec l'eau des croyances et de sombrer dans une forme de relativisme ou de scepticisme nourri par cette prise de conscience de la contingence généralisée de notre rapport au monde et à la vérité. Toute vérité, faute de s'arrimer à un fondement suffisant dans le réel ou dans les autres croyances, toute vérité ne serait qu'un jugement de valeur parmi d'autres. Un jugement de valeur produit par des tendances liées au hasard de notre biographie personnelle, de la formation historique de nos usages langagiers, de notre position sociale, de notre position économique, de notre identité sexuelle, au sein d'une communauté, et plus largement de l'assise géographique, historique, culturelle de la communauté à laquelle nous appartenons. Voilà, la liste est infinie, on peut faire varier à l'envi les paramètres qui en viendraient justement à donner à la vérité une autre inflexion. Autrement dit, notre usage de la notion de vérité sera un usage sans filet, un usage sans assise, sans garantie, sans fondement autre que la trame contingente de nos pratiques sociales, tissée par des usages linguistiques que nous avons peu à peu incorporés en nous, comme le fait de faire une conférence, par exemple, sans vraiment les comprendre, sans vraiment savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons, ni comment nous le faisons. Alors, est-ce que ça signifie que la notion de vérité est illusoire ? Est-ce que ça signifie que tout est affaire d'habitude, de convention, d'apparence, de croyance aussi partiale qu'invérifiable, de lutte d'intérêts, de conflits idéologiques entre des factions qui tendraient à imposer leur vérité ? Serions-nous revenus au temps archaïque des maîtres de vérité que nous présentait Marcel Détienne ? Un tel tableau qui épouse les contours du relativisme, tout est relatif, rien n'est absolu ou universel, c'est ça en gros le relativisme, ou les contours de ce qu'on appelle maintenant le constructivisme, toute vérité supposée serait une simple construction sociale, tributaire d'intérêts sociaux, pas forcément partiaux, conflictuels, idéologiques. Ce tableau s'impose aisément dans les consciences individuelles, aussi bien philosophiques que non philosophiques. C'est un constat qui découle d'ailleurs en droite ligne de ce que Nietzsche, le premier, avait appelé la montée du nihilisme. Le nihilisme, c'est quoi ? C'est la prise de conscience que toutes nos valeurs fondamentales se dévaluent, qu'elles n'ont plus la même valeur qu'avant, et que donc on ne croit plus en rien, d'où l'idée de nihilisme. Nihilisme qui serait lui-même une conséquence de la mort de Dieu, poursuit Nietzsche. La mort de Dieu, c'est quoi ? C'est la prise de conscience du fait que nos valeurs ne peuvent plus se fonder dans aucune autorité transcendante. À partir de là, nos valeurs, comme à la bourse, se dévaluent. Nous serions dans ce que Jean-François Lyotard appellerait la condition postmoderne, marquée par la fin des grands récits, pour reprendre son expression célèbre, la fin de la possibilité d'intégrer nos croyances dans de grands récits de justification à vocation universelle qui suffiraient à en attester la vérité, grand récit dont le savoir absolu de Hegel serait comme l'archétype. On aurait donc affaire à une sorte d'univers désenchanté, privé de tout repère absolu, livré au perspectivisme instable et conflictuel des individus et des communautés humaines, sachant que ces conflits de perspectives se joueraient à la fois entre les individus d'une société, entre les classes sociales d'une société, mais aussi entre les communautés elles-mêmes, d'où cette thématique désormais célèbre du choc des civilisations. Qu'en est-il de ces grandes catégories qui constituent un peu l'air du temps, le relativisme, le constructivisme, le nihilisme, le postmodernisme ? Il ne faut pas oublier, quand on emploie ces mots, qu'il s'agit à l'origine justement de drames philosophiques, de constructions dramaturgiques élaborées par la philosophie, constructions qui en viennent à s'imposer à la conscience non prévenue comme des évidences de l'humanité sécularisée, post-métaphysique, désenchantée, qui est supposée être la nôtre. Mais ces drames sont pour une large part le résultat non maîtrisé, non contrôlé et méconnu comme tel de grandes dramaturgies philosophiques, donc d'effets de grossissement, d'effets d'amplification, d'effets d'intensification de certaines perplexités, et en particulier de la difficulté humaine de s'accommoder durablement de l'absence de fondation absolue de notre rapport aux vérités que nous exigeons, convoquons, critiquons et revendiquons dans nos pratiques sociales ordinaires. D'où la nécessité de ramener ces drames de l'esprit aux dramaturgies qui ont présidé à leur formulation, afin d'en neutraliser, si possible, la puissance de sidération, la puissance d'angoisse, de crispation. De ce point de vue-là, si l'on restitue un petit peu les choses dans leur contexte, le relativisme ne serait autre chose que l'expression dramatisée de notre incapacité à faire d'autre chose que de nous-mêmes la mesure du réel. Et ça, c'est quelque chose qui nous angoisse, visiblement. Autrement dit, le relativisme ne tire sa force dramatique que de son envers, de ce à quoi il se réfère négativement, à savoir d'une forme de nostalgie de l'absolu, d'un fondement ultime de nos croyances, que ce fondement soit Dieu, des principes intellectuels indubitables ou une réalité parfaitement univoque et indépendante de la façon dont nous la percevons et la concevons. Souscrire au relativisme, d'une certaine manière, c'est encore être hanté par l'absolu, mais sous une forme négative. C'est être hanté par un absolu introuvable, inassignable, qui continue de briller, mais uniquement par son absence. De la même façon, le constructivisme constitue une forme de dégrisement, d'une ivresse liée à un savoir décontextualisé, à l'espoir d'un savoir décontextualisé, un savoir émancipé des valeurs, des intérêts humains, un savoir émancipé de l'épaisseur du monde social et historique qui constitue pourtant son terreau de formation. Et de la même façon, le constructivisme demeure justement sous l'emprise de cet idéal inaccessible. C'est parce que nous aurions le fantasme d'un savoir coupé de toute valeur, coupé des luttes d'intérêts, coupé des pratiques sociales, d'accord, rendu à sa pureté, que nous succombons au drame constructiviste. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de construction des savoirs, attention. D'accord, évidemment, et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de relativité de nos connaissances. Ça veut dire peut-être qu'il ne s'agit pas d'en faire un drame, c'est autre chose. Continuons dans notre liste. Qu'en est-il du nihilisme ? Le nihilisme, de la même façon, c'est une sorte de gueule de bois, de dégrisement de ceux qui s'enivraient autrefois de valeurs absolues, de valeurs indépendantes de nos évaluations contingentes, de valeurs qui pouvaient s'imposer à nous, qui pouvaient être reçues comme telles dans leur dignité, dans leur sacralité. On ne croit plus en rien, faute de croire en l'absoluité de la vérité. Le nihilisme, c'est un jeu du tout, au tout ou rien. Comme on ne peut plus croire en tout, on ne croit plus en rien. Quid du postmodernisme, bon, qui est une étiquette commode, mais que j'emploierai par commodité justement ce soir. Le postmodernisme constituerait finalement une sorte de posture philosophique incontrôlée, qui consisterait à investir, au contraire, de façon positive, en jouer la contingence sous toutes ses formes, et investir cette contingence de la sacralité qui enveloppait jadis la nécessité et l'universalité dans les temps pré-postmodernes, pour ainsi dire. Autrement dit, le postmodernisme demeure tributaire de ce geste de sacralisation. Simplement, au lieu de sacraliser le nécessaire, l'universel, on sacralise son contraire. Le geste demeure et le signe s'inverse. Il consiste, ce geste, à surenchérir sur l'absence de fondement absolu de nos pratiques, en célébrant les joies du hasard, de l'aléatoire, de la contingence, de l'imprévisible, de la singularité, de l'irrationnel, etc., etc. Bref, des attributs exactement inverses de ce dont le nihiliste déplorait la perte irrémédiable. Autrement dit, ainsi compris, de manière nécessairement réductrice, sans doute, et je m'en excuse auprès des postmodernes de la salle, le postmodernisme serait une attitude aussi mystifiante que son contraire, une attitude qui partagerait avec l'absolutisme théorique une sorte de défaut commun qui consiste à nous faire manquer l'essentiel dans notre rapport à la vérité. À savoir, qu'est-ce que c'est qui finalement serait à retenir dans ce rapport ? Eh bien, c'est précisément qu'en dépit de tout fondement assuré et contre toute attente, eh bien, nos usages ordinaires de la notion de vérité demeurent bien en place. Nous continuons à user de la vérité, nous continuons à poser des questions de vérité. Nous continuons à critiquer des vérités au nom d'autres vérités, au nom d'un idéal de vérité. Nous continuons à faire la part de la vérité du mensonge, de la vérité de l'apparence, de la vérité et de l'erreur. Autrement dit, nous continuons à faire comme si de rien n'était. On voit bien ici que la philosophie est ambivalente, puisqu'elle peut nous égarer, mais elle peut également nous aider à y voir plus clair par justement un effet de grossissement. Elle peut nous aider notamment à mieux percevoir ce que l'on pourrait appeler la contingence radicale de nos pratiques de vérité. Nous confrontons nos énoncés au monde sans jamais rejoindre totalement le monde, mais nous le faisons quand même. Nous confrontons nos énoncés les uns aux autres sans jamais totalement atteindre un système total et cohérent de nos croyances, mais nous le faisons quand même. Pour ainsi dire, nous dansons sur l'abîme dans une forme d'insouciance sans nous soucier du précipice, en ne voyant de cet abîme que l'infime fêlure, que l'infime craquelure dont nous étions partis. Nous bricolons du nécessaire avec du contingent. Nous bricolons de l'universel avec du particulier, du vrai avec du vraisemblable. Et nous raffinons à loisir ces usages, ces bricolages, dans des domaines de pertinence respectifs, qu'il s'agisse de la science, de l'art, de la politique, de l'économie ou de la religion. En nous appuyant non pas sur un inaccessible fondement absolu, que ce fondement soit à chercher dans le réel ou dans l'organisation interne de nos pensées, mais en nous appuyant sur ce que Wittgenstein, dans ses recherches philosophiques, a appelé le sol rugueux de la réalité ordinaire. Sol rugueux contre lequel la tête de notre pioche finit par se retourner. Non pas parce qu'à force de creuser, elle aura atteint l'inconditionné, l'absolu, le transcendant, mais tout simplement parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas aller plus loin. Et que souvent, cela n'a pas de sens de vouloir aller plus loin que ce que l'on trouve. Un peu comme ces enfants, vous savez, à un certain âge, qui demandent constamment à leurs parents pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi le pourquoi ? Le pourquoi du pourquoi ? Y compris quand il n'est plus de pourquoi qui vaille. y compris quand le pourquoi n'a plus de sens. Et finalement, peut-être que justement, cette insistance excessive, excessivement dramatique sur l'obtention de garanties absolues de vérité est du même ordre que cette suite indéfinie de pourquoi, cette sortie du questionnement pourquoi hors de son contexte de pertinence. Au final, il est bien possible que le scepticisme, et c'est bien une méditation sceptique que j'ai menée ce soir, il est bien possible que le scepticisme soit irréfutable sur le plan théorique. Ça, c'est tout à fait possible et c'est même probable. Mais par contre, le scepticisme est toujours déjà réfuté sur le plan pratique. Il est toujours réfuté par notre immersion dans la vie ordinaire et dans notre adhésion quasi naturelle aux normes, aux coutumes, aux usages, aux règles qui gouvernent nos pratiques sociales. Je citerai à ce propos la fin magnifique du livre 1 du Traité de la nature humaine, dans lequel David Hume, justement, a le cerveau totalement embrumé et totalement déprimé, désespéré par ses propres méditations sceptiques. Et il nous dit la chose suivante. Il est dans son cabinet de travail et il commence à broyer du noir, puisqu'il n'arrive à trouver aucune certitude. Je cite, « Puisque la raison est incapable de disperser ses nuages, la nature elle-même y suffit et me guérit de cette mélancolie et de ce délire philosophique. Je dîne, je fais une partie de jacquet, je converse et je me réjouis avec mes amis. Et quand, après 3 ou 4 heures d'amusement, je veux reprendre ces spéculations, elles m'apparaissent si froides, si forcées et si ridicules que je ne peux pas trouver le cœur de les poursuivre plus avant. » Quel aveu! D'accord, le scepticisme est sans doute impossible à réfuter, mais faut-il vouloir le réfuter à tout prix sur le terrain de la connaissance? Puisque de facto, le scepticisme s'évanouit comme un nuage de fumée aussitôt que le sceptique lui-même replonge dans la vie ordinaire. Il ne croyait en rien, enfermé dans son cabinet de travail, et le voilà tout d'un coup à brasser des croyances vraies, comme s'il en pleuvait, en conversant avec ses amis, en parlant du beau temps, de la météo, des résultats de football, etc. Et tout d'un coup, tout suit son cours. Et la vérité réapparaît par la petite porte, mais après tout, c'est peut-être comme ça qu'elle apparaît de la façon la plus naturelle pour investir nos discours et nos pratiques. Notre rapport à la vérité se tisse dans la vie ordinaire de nos usages langagiers, dans la confrontation ordinaire au mensonge, à la tromperie, à la séduction, à l'erreur de bonne foi, à la confusion, à l'imprécision, à l'impertinence, à l'absurdité. Et ce rapport à la vérité se raffine au gré des discussions mathématiques, scientifiques, médicales, juridiques, économiques, politiques, discussions dans lesquelles la vérité se conjugue au pluriel, dans des régimes de vérité toujours locaux, toujours incomplets, toujours précaires, suspendus dans le vide des raisons, ce qui ne les empêche aucunement de remplir fort bien leur mission et de nous permettre de conforter ou de critiquer nos croyances. Et c'est après tout ce qu'on leur demande. Il revient à la philosophie de nous faire ressentir, pour un temps, cet étrange vertige que peut susciter cette condition, le fait de danser avec insouciance sur un abîme, sur une absence de fondement, mais néanmoins de danser tranquillement et de continuer sa route. Il revient à la philosophie de nous apprendre à accepter avec sérénité ce que Wittgenstein, dans une belle formule, appelait la dureté du mou. Quand nous appuyons, il n'y a que du mou, et pourtant ça résiste, ça nous permet de construire des choses, comme si c'était dur. La philosophie nous apprend à accepter la robustesse pratique de nos procédures, pourtant toujours précaires, toujours molles, toujours fragiles, de production de vérité. Autrement dit, pour finir, il faudrait dire que ce qui peut se présenter parfois comme un désespoir à l'égard de la vérité, ou comme une défiance désabusée à l'égard de la vérité, provient la plupart du temps d'une confusion fâcheuse entre deux plans de nos vies. Deux plans qu'il faut apprendre à distinguer. D'une part, le plan théorique, où se révèle à force de soupçons, forcément. À force de soupçonner, on finit par trouver une raison à ce soupçon. C'est tout bon paranoïaque le sait. Sur le plan théorique, à force de soupçons, on finit forcément par rencontrer la facticité, la contingence, en dernière instance, de nos croyances les plus avérées. Quand il y a un fameux sujet d'agrégation philosophique qui s'intitule « Prouve ta preuve ». D'accord ? Et oui, on doit vraiment traiter de ça pour devenir professeur de philosophie, vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même quand j'ai fourni les meilleures preuves dont je suis capable, on pourra toujours trouver une façon, de notre façon, comme l'enfant qui redemande un nouveau pourquoi quand on a déjà épuisé tout son stock d'énoncés improbables, on aura toujours besoin peut-être de rejouer la preuve, de trouver une façon d'affirmer cette preuve. Il ne faut donc pas confondre le plan théorique, où encore une fois, la logique du soupçon l'emporte toujours. Il est toujours plus facile de dévoiler des incertitudes que d'affermir des certitudes. Il ne faut pas confondre ce plan théorique avec le plan pratique, celui de nos actions, de nos engagements concrets, de nos pratiques sociales, où nous retrouvons le monde dans l'évidence indiscutable de sa présence massive et où nous appuyons résolument sur lui pour lester nos croyances de sa plénitude rassurante. Alors, au moment de conclure cette conférence, j'ai un aveu à vous faire, je ne sais toujours pas exactement ce que serait une vraie conférence, ni dans quelle mesure j'en ai vraiment fait une. Je ne sais même pas si vous-même vous le savez d'ailleurs. Mais le fait est que je l'ai faite néanmoins. Ça s'est passé. J'ai résorbé l'abîme initial, cet abîme potentiellement menaçant, qui consistait à entrevoir l'impossibilité tenace de justifier vraiment ce que je devais faire. Je l'ai résorbé, cet abîme, tout simplement en le faisant. Dans le déploiement spontané, non pas d'un savoir, mais d'un savoir-faire, d'une forme de sens pratique incorporé au fond de moi. Sens pratique qui remet aussitôt mes doutes à leur place. C'est leur place, c'est celle d'être une simple parenthèse, anodine, dans le déroulement effectif de mon discours, de ma pratique, de conférencier. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une vraie conférence, et j'ai toujours pas, je vous l'avoue, la moindre idée de ce qui peut la rendre plus ou moins véritable. Mais la voici terminée. Et sans vraiment savoir pourquoi, je sais confusément, malgré tout, et de manière parfaitement assurée, qu'elle doit se terminer sans aucun doute possible par les mots suivants. Je vous remercie.
C'était l'Agora des savoirs.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Des conférences ouvertes à tous.
La science est un discours.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM 93.9.
L'interrogation de l'être humain.
La création de l'univers.
Le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Il y a beaucoup de choses en nous.
L'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
Que nous ignorons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
La science est un discours.
Avec quoi est-ce que nous pouvons en connaître? Sinon avec notre propre connaissance.
L'Agora des savoirs, une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec SORAMS, la Maison des sciences de l'homme de Montpellier, Direct Montpellier Plus et Divergence FM.
Vous venez d'entendre Olivier Tinlan, la vérité est-elle une valeur comme les autres ? Prochain rendez-vous de l'Agora des Savoirs le mercredi 30 mars à 20h30 salle Rabelais ou en direct sur Divergence FM avec une conférence de François Julien, cette étrange idée de beau, l'esthétique à l'épreuve de la Chine.